Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des femmes qui passent de la rue à la vie, des femmes SDF qui finissent par retrouver un travail, une dignité, c'est l'histoire des Invisibles, l'une des réussites du moment au cinéma, une réussite sur laquelle misent beaucoup les associations qui viennent en aide aux SDF. Reportage à suivre. Le retour de Nicolas Hulot à la tête de sa fondation, c'est pour bientôt, une information France Inter. Dans l'actualité également, les locaux de France Bleu Isère à Grenoble ravagés par les flammes, c'est cette nuit, un incendie d'origine criminelle. Le Brésil encore sous le choc, 3 jours après la rupture dévastatrice d'un barrage minier. Nous serons sur place. Et la Lune, nouvelle destination artistique du centre Georges Pompidou. On vous en parle en fin de journal.
Il est youtubeur, il est chanteur, il sera la voix de la France à l'Eurovision cette année. Bilal Hassani est l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Sébastien, quand le cinéma met en lumière des femmes de la rue.
C'est l'histoire de ce long métrage, en effet, Les Invisibles, sorti il y a moins de 3 semaines sur les écrans. Une fiction à mi-chemin avec le documentaire qui raconte le quotidien d'un centre d'accueil pour femmes SDF. Les Invisibles fait un carton inattendu, 700 000 entrées à ce jour. Un succès qui donne de l'espoir aux associations de terrain. L'un de nos reporters s'est rendu dans une petite structure du 18e arrondissement de Paris, l'ADSF, pour le développement de la santé des femmes, qui attend beaucoup de cette nouvelle médiatisation. Le reportage de Rémi Brancato.
Des femmes SDF qui retrouvent un métier oublié avec la rue, c'est l'histoire du film Les Invisibles.
Ça existe dans la vraie vie.
Nadège Passereau, la déléguée générale de l'ADSF, l'association pour le développement de la santé des femmes, est formelle.
Vraiment, Les Invisibles, c'est de la fiction à la réalité.
La réalité dans ce petit local du 18e arrondissement de Paris, c'est celle de Marem Silla, 32 ans.
Je suis sage-femme, j'ai exercé pendant 7 ans au Sénégal. Ils m'ont proposé de faire des permanences médicales. Si je ne les avais pas rencontrées, je ne sais pas, est-ce que j'aurais pu jusqu'à ce moment-là.
Marem est désormais salariée de l'ADSF après avoir été femme relais bénévole. Elles sont une dizaine comme elle.
C'est des femmes qui nous sont arrivées dans la rue. On les accompagne, on les forme. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de se bouger.
Et le film qui les met en lumière change le quotidien de l'association.
Beaucoup de particuliers ont proposé spontanément de venir s'engager bénévolement, d'apporter des vêtements, des produits d'hygiène. Il fallait attendre un film qui témoigne de ce besoin de dames qu'on ne voyait pas.
Un besoin d'accompagnement gynécologique notamment et de kit avec shampoing, serviettes hygiéniques. Et pour cela, il faut des dons.
Non, c'est un chat. Ok, mets-toi le en jaune.
Les particuliers, c'est 10% du budget et ça ne bouge pas malgré le film, constate Marité, la trésorière.
Mais pour l'instant, ça n'a pas été très efficace.
Des entreprises se sont quand même manifestées. L'association se développe avec une implantation à Lille et peut-être bientôt à Marseille.
Remarque, reportage de Rémi Brancato sur les femmes de l'ADSF, rue Bernard Dimet, dans le 18e à Paris.
7h33, le comeback de Nicolas Hulot.
L'ancien ministre de la Transition écologique s'apprête à reprendre officiellement du service Information France Inter. Nicolas Hulot sera nommé mercredi président d'honneur de la Fondation pour l'Homme et la Nature, l'ex-fondation Hulot qu'il avait lui-même créée. Un retour aux sources du militantisme qui ne surprend pas dans le monde associatif, Sandy Dauphin.
Sa démission en 5 minutes sur France Inter a fait plus pour la cause climatique que ses 15 mois passés au gouvernement. C'est l'avis de Stéphane Diéric. Comme beaucoup, ce trentenaire parisien est devenu militant après le départ de Nicolas Hulot.
J'ai rejoint les mouvements à peu près en décembre. Et c'est la démission de Nicolas Hulot qui a fait émerger ces mouvements. Donc c'est le mouvement qui a été déclenché par sa démission qui m'a poussé à m'engager, clairement. Et je pense que revenir par la base plutôt que revenir par la tête d'un État, il a probablement compris que c'était finalement ce qui pouvait être le plus efficace pour la cause climatique.
Si Nicolas Hulot est un soutien de poids pour la cause environnementale, pas question pour autant de l'attendre comme le Messie, estime Elodie Nas, militante pour le climat au sein de l'association Alternatiba.
Je pense qu'il n'y a pas un homme ou une femme providentielle qui va permettre de résoudre toutes les choses. Et du coup, la question, c'est comment maintenant, collectivement, et comme je disais, pas avec une personne providentielle, on va pouvoir instaurer un rapport de force avec le gouvernement, avec des acteurs privés qui nous précipitent droit dans le mur.
La semaine dernière, à la télé suisse, Nicolas Hulot était visiblement prêt à remonter sur le ring. « Je ne me suis pas battu 30 ans ». Pour baisser les bras.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter. Nicolas Hulot était-il dans les cortèges de ce week-end? La manif pour la défense du climat a rassemblé en tout cas 80 000 personnes dans toute la France. L'acte 11 des Gilets jaunes, lui, a réuni 69 000 manifestants samedi contre 84 000 la semaine précédente, avec notamment des violences place de la Bastille à Paris, où l'une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a été gravement blessé à l'œil. La police, pour le moment, exclut toute utilisation volontaire d'un lanceur de balles de défense. Alors, comment sortir de cette crise? Emmanuel Macron promet pour sa part de tirer, je cite, les conséquences, des conséquences profondes et pas seulement des mesures techniques. Le président l'a dit hier soir lors d'un voyage d'affaires au Caire où il est en visite pour 2 jours. L'une des pistes qui sera creusée aujourd'hui, c'est l'aménagement de l'une des décisions qui fâchent, les 80 km/h. Édouard Philippe se rendra aujourd'hui en Seine-et-Marne pour dévoiler le bilan sécurité routière de l'an dernier et devrait en profiter pour faire machine arrière. Les 80 km/h, véritable chiffon rouge pour les Gilets jaunes, mais ce n'est pas le seul sujet de controverse. La fiscalité, on le sait, est au cœur du grand débat. Ce matin, gros plan sur l'une des propositions qui remontent du terrain. Certains Gilets jaunes proposent de transformer l'impôt sur le revenu en impôt proportionnel et non pas progressif. Vaut-il mieux de l'égalité ou de l'équité fiscale? Les clés pour comprendre avec Hélène Philly.
Un impôt proportionnel, ça voudrait dire tout le monde au même taux. Une idée simple et qui paraît égalitaire. Si un contribuable gagne 2 fois plus, il paiera 2 fois plus. Ce principe est d'ailleurs déjà celui qui prévaut pour la CSG. Mais derrière cette question, il y a un vrai débat de société. La simplification garantit-elle la justice fiscale? 10% d'impôt quand on gagne 1 million d'euros par an sera toujours moins lourd que 10% pour un smicard. Avec l'impôt sur le revenu progressif que l'on connaît aujourd'hui, le taux de prélèvement augmente avec la valeur de ce qui est taxé et donc limite les écarts de richesse entre les ménages. Cela dit, la profusion de niches fiscales, plus de 450, brouille le système et peut même le rendre injuste, les contribuables sachant plus ou moins en tirer parti. Certains évoquent donc l'idée de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu et d'y appliquer un ou deux taux, par exemple 5 et 15% de part et d'autre d'un certain seuil de revenu. Mais que faire pour le quotient familial? La redistribution en serait-elle plus juste? C'est toute la question.
Hélène Filly, et pour comprendre comment fonctionne l'impôt d'aujourd'hui, l'impôt progressif, c'est à retrouver sur franceinter.fr. La France va-t-elle bientôt manquer de cartes grises? L'usine qui produit le papier servant à fabriquer ces papiers sécurisés, mais aussi les chèques, l'usine Arjo-Wiggins en Seine-et-Marne, est en liquidation judiciaire. Et les 240 salariés menacés se disent prêts, dit-il, à brûler tout leur stock pour attirer l'attention des pouvoirs publics. On le disait en titre, une radio locale de Radio France visée par un incendie criminel cette nuit. Les locaux de France Bleu Isère à Grenoble ont été partiellement détruits sans faire de blessés. Aucune revendication n'a pour l'instant été reçue.
7h37, direction le Brésil, Sébastien, où la colère monte après la rupture d'un barrage vendredi dernier.
Les habitants de la petite ville de Brumadinho sont toujours sans nouvelles de centaines de leurs proches, peut-être ensevelis sous les rejets miniers qui ont tout dévasté sur leur passage la semaine dernière. 12 millions de mètres cubes d'eau déversés en quelques minutes. Hier, les secours ont même dû s'arrêter car un autre barrage du même propriétaire, le géant Vale, menaçait lui aussi de céder. Un retard dans les recherches insupportable pour les familles. Notre reporter, Anne Vignas, s'est rendue sur place. On écoute son reportage.
Le désespoir est à son comble dans les locaux que le géant minier Vale a mis à disposition des familles des disparus. Hier, l'armée empêchait les secours de travailler car un autre barrage menaçait de rompre. Mais pour les familles, ce sont des précieuses heures qui se perdent. Et devant l'inaction, les femmes expriment leur colère.
Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Personne ne nous dit rien depuis vendredi. Tous les hélicoptères sont à l'arrêt et je ne sais pas ce qu'ils attendent. Qu'on n'ait plus du tout d'espoir. Pour l'amour de Dieu, qu'ils envoient les secours. Et s'ils ne veulent pas, qu'ils nous laissent y aller. Nous, les familles, pour l'amour de Dieu, quelqu'un fait quelque chose. Où sont les personnes responsables? Où? Je ne veux plus me taire et rester les bras croisés. On veut des réponses maintenant. On veut une information précise, précise.
Les familles ont tenté d'organiser une manifestation au cri de « soldats, laisse-nous passer » pour se rendre sur la zone interdite. Mais elles ont vite été stoppées par la police après quelques centaines de mètres. En fin de journée, les secours ont reconnu qu'aucun survivant n'avait été localisé hier et que le bilan s'élève désormais à 58 morts et 305 disparus. Brumadinho, Anvinha, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, c'est l'un des plus célèbres avocats spécialisés dans les droits de l'homme en Chine. Wang Quangzhang a été condamné aujourd'hui à 4 ans et demi d'emprisonnement pour subversion. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido maintient la pression sur Nicolas Maduro. Il a appelé hier à 2 nouvelles manifestations mercredi et samedi prochain contre le président élu Maduro et en faveur de l'organisation d'élections libres. Guaido qui par ailleurs tente de faire basculer l'armée de son côté en offrant l'amnistie aux soldats. Saura-t-on un jour ce qui s'est passé à l'intérieur du consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre dernier? La rapporteure spéciale de l'ONU, la française Agnès Callamard, arrive aujourd'hui en Turquie. C'est elle qui a été désignée pour piloter l'enquête internationale sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.
Il est 7h40, un objet d'art déposé sur la Lune. Ce sera en 2020 à l'initiative du Centre Pompidou.
Oui, c'est ce que présente le musée parisien dans le cadre de son festival Hors-Piste qui s'intitule cette année La Lune, zone imaginaire à défendre. Il s'agit de commémorer les 50 ans du premier pas d'un homme sur la Lune. L'exposition interroge notre rapport à la Lune du point de vue artistique, scientifique, également géopolitique. Isabelle Pasquier nous arrête devant cet objet d'art qui partira donc en 2020 et qui partira avec les astronautes de la NASA.
On a le vertige en imaginant des extraterrestres découvrant dans le futur ces petits cylindres, ces pentagones métalliques de 10 cm de longueur qui contiennent une petite séquence du récit de notre humanité avec des photos, des créations chorégraphiques, littéraires et musicales. 300 artistes et scientifiques ont réalisé Moonarch. Géraldine Gomez est la commissaire de l'expo.
En fait, ça sera 4 petits cylindres. Dans chaque module, il y a 2 petits disques qui ressemblent à des CD, sur lesquels sont justement imprimées et gravées des traces de notre civilisation, des images du quotidien d'un des scientifiques, la naissance d'un enfant, des photos de plats, et il y a également une représentation d'œuvres d'art, et chaque création est unique.
Aujourd'hui, plusieurs œuvres d'art sont déjà sur la Lune. En 69, le Moon Museum, avec notamment un dessin érotique d'Andy Warhol. En 71, une plaque en hommage à 14 astronautes morts en mission. En 2020, Moonarch sera le nouveau message adressé par nous les terriens à l'univers et au futur, avec cette musique comme bande originale de notre humanité.
Voilà, vous pourrez voir et donc entendre aussi ces petits cylindres au Festival Hors-Piste au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 3 février prochain.
Merci Sébastien Legénie.